de l'émission Le Forum de midi, la première. Vous réagissez aussi par SMS. On va relayer quelques-uns de ces SMS dans la deuxième partie de l'émission. 60-31, 50 centimes le message.
Vos avis, questions et commentaires sur la page Facebook Le Forum de midi.
Ou par SMS 6031, 50 centimes le message au 02 737 37 07. On parle de la vaccination ce midi avec nos invités, docteur Marie-Christine Mauroy, directrice médicale à l'Office national de la naissance et de l'enfance, Muriel Moser, chercheur FNRS à l'ULB, directrice du laboratoire d'immunobiologie, docteur Béatrice Souenen, également responsable de la cellule PROVAC, promotion et expertise en matière de vaccination à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et nous accueillons par téléphone, cette fois-ci, c'est la bonne, Philippe Van Langendonck, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Van Buggenhout.
Rebonjour, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles. Alors, vous défendez des parents dont les enfants ont été exclus, par exemple, de milieux d'accueil parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés. On va revenir un court instant sur la décision de justice qui est tombée cette semaine. Donc, des parents d'un enfant qui ont été condamnés en appel à une amende pour ne pas avoir fait vacciner leur petit garçon, alors qu'ils avaient été acquittés par la justice en première instance. Alors, parce que on fait valoir ici la loi de 1966 qui rend ce vaccin obligatoire, alors que l'avocat avait fait avait basé son argumentation sur la loi concernant les droits du patient, le droit du patient qui est une loi de 2002. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot d'explication sur cette procédure? Et sur la portée de cette loi concernant le droit du patient?
Oui, justement, la loi sur le droit des patients date d'août 2002 et l'obligation du vaccin polio en Belgique remonte à un arrêté royal de 1966. Et effectivement, après le jugement de Tournai le 16 mars 2011, il y avait eu des débats même au Parlement où dans les documents parlementaires, on retrouve en séance du Sénat du 4 mai 2011 Madame Onkelinx, ministre de la Santé, qui dit que le raisonnement que les parents ont soutenu à Tournai pouvait être invoqué par d'autres parents. C'est-à-dire que il avait été demandé, dans le respect de la Constitution, qui oblige les cours et tribunaux à écarter un règlement, donc l'arrêté de 1966, lorsqu'il est contraire à une loi qui est de rang supérieur, une norme juridique de rang supérieur, comme la loi de 2002 sur le droit des patients, bien d'écarter le règlement qui est contraire à une loi. C'est ce que le juge correctionnel a fait à Tournai. Et l'arrêt de cette semaine à Mons fait l'objet d'un pourvoi en cassation, puisque le juge correctionnel, la cour d'appel à Mons, les trois juges, pardon, n'ont pas, ne sont plus rentrés dans cette discussion. La hiérarchie des normes ont tenu compte d'autres éléments, etc. Mais bon, ça fera l'objet du pourvoi en cassation. Et c'est vrai que c'est une problématique qui illustre en fait le rapport ou le partage entre, d'une part, le respect de la liberté vaccinale, parce que le mot est important, il s'agit de liberté vaccinale, et quand on voit le titre de votre émission, les parents anti-vaccins, ce n'était pas le cas. Il s'agissait de personnes qui souhaitaient d'abord protéger la santé de leur enfant, c'est une chose importante. Et donc, le rapport entre la protection de la liberté, le respect de la liberté vaccinale qui est inscrit dans la loi 2002, et d'autre part, la protection de la collectivité, vous voyez, ce qui fait partie de la mission de l'ONE, de Clinton Rusin et d'organismes de santé publique. Alors tout le problème est là, c'est quelles normes doivent être prises en compte. Vous avez le registre donc de la protection de l'intérêt collectif. Alors il y a trois niveaux en fait. Vous avez le niveau de la loi 2002 qui est une loi générale, c'est-à-dire qu'elle donne des droits aux patients et aussi des droits aux médecins. Et bon, c'est une loi générale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tout le monde. Et puis, on a des dispositions qui sont plus ciblées par rapport à la protection de la collectivité. Ça peut se traduire par des recommandations de l'ONE, des recommandations de Clinton Rusin, puisque, comme vous l'avez rappelé en début d'émission, sur le plan légal, il n'y a que l'obligation polio qui est en principe obligatoire, bien que ça fasse l'objet de procédures en cours. Et donc, vous avez le troisième registre, qui est ce qu'on appelle la protection des libertés individuelles. Alors, je crois que c'est un débat stérile d'opposer ceux qui sont pour et contre les vaccins. Moi, je ne suis pas du tout contre les vaccins, mes clients non plus d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est pouvoir protéger la santé des enfants, de tout le monde, quoi. Et alors, bon, le vaccin, c'est un des moyens qui existe. Ce qu'il faut, et on a parlé du mécanisme du vaccin, c'est vrai que pour chaque maladie, ou certaines maladies contagieuses, il existe un antigène qui a été développé, parce que nous avons une industrie très florissante, et c'est une des fiertés, c'est un des fleurons de la Belgique, n'est-ce pas? La France est le premier fabricant mondial de vaccins, la Belgique c'est le deuxième fabricant mondial de vaccins, donc on a des industries très présentes. Mais donc on utilise un antigène, et comme le docteur Mauroy le disait, l'expliquait, c'est qu'on fait croire, par exemple, à un petit enfant, en lui administrant un vaccin, on fait croire à l'organisme que la rougeole est là et que donc il doit s'organiser, etc. Mais le virus n'est pas le virus méchant qui peut, je dirais, l'affecter de la véritable maladie. Le problème, voyez-vous, c'est que quand on voit le calendrier de l'ONE ou de Clinton Cuisine, peu importe, il n'y a pas de procès de personne ici, c'est que vous avez souvent un vaccin, un Fanrix, qui est un hexavalent. Ça veut dire que vous avez 6 antigènes. Donc on fait croire
c'est à six vaccins en un
qui est très jeune qu'il y a 6 maladies en même temps qui se présentent. Donc on crée une situation qui est tout à fait inédite dans la nature. Ça n'est jamais arrivé qu'un enfant soit confronté simultanément, qu'on lui fasse croire qu'il a 6, puisque vous avez l'hexavalent plus prévenable plus rotarique. Ça fait en un coup. Vous avez, en une séance de vaccination, vous avez 8 antigènes différents qui font croire à l'organisme que subitement, il est attaqué par 8 maladies différentes assez sérieuses. Quoi. Bon. Donc ça crée une situation totalement inédite. Alors le problème, les médecins disent que trop de vaccins tuent le vaccin dans la mesure où il est documenté par des études médicales et scientifiques qu'au-delà de 6 antigènes, vous pouvez provoquer un effondrement immunitaire. Et donc là, c'est une passoire on peut arriver à des effondrements de l'immunité. Ça peut donner lieu à certaines maladies chroniques. Enfin, on appelle ça des maladies chroniques. Vous avez une émission très récemment à l'RTB sur des maladies qui seraient fabriquées pour des médicaments brevetés. Enfin bon, c'est tout un marché.
Tout à fait. Oui. Mais vous, Philippe Van Engendonck, alors quel est le moteur de votre combat, si je puis dire, pour cette liberté vaccinale? Est-ce que c'est la question de liberté individuelle, de la liberté de chacun d'être maître de ses choix, etc. Ou bien c'est ce que vous évoquez là plus tôt, les risques liés au niveau de la santé que relèvent certains scientifiques?
Mais donc c'est vraiment le respect de la légalité et du régime légal de la liberté vaccinale qui est inscrite dans la loi 2002. Donc, c'est même pas une question de liberté individuelle. Cette loi 2002, en fait, c'est une loi qui est inspirée du droit absolu à la protection de l'intégrité physique. Donc, elle est basée sur les droits de l'homme, sur la protection des droits fondamentaux. Et la protection des droits fondamentaux, c'est pas une question de liberté individuelle. Enfin, vous avez certaines libertés, comme la liberté d'expression, de religion, qui font partie des droits fondamentaux. Mais c'est à un niveau tout à fait suprême. Et le problème, c'est lorsque des organismes habilités font des recommandations, c'est très louable, mais lorsque cela bascule en obligation ou pseudo-obligation via des règlements de crèche ou quoi, là, on arrive à un contexte qui est éloigné, je dirais, de ce respect des droits fondamentaux. Et vous savez, le problème n'est pas tellement l'antigène. Comme je l'ai dit, on a une industrie très florissante et active en la matière. Le problème, ce sont les composants. On a parlé du vaccin polio. Eh bien, aujourd'hui, dans le vaccin polio, même si vous ne prenez que le vaccin polio, ce qui n'est pas toujours évident, il faut encore le trouver en monodose, et que qu'avec l'antigène concernant la polio, eh bien, il contient du formaldéhyde, qui est un cancérinogène, un produit cancérigène documenté par l'OMS. Mmh. Alors, c'est là qu'il y a des questions. C'est pas par rapport à l'antigène, au mécanisme du vaccin. Ça, c'est ce qu'il faut. Ouais. Ce sont de bons vaccins.
Ouais, et ça rejoint des questions d'auditeurs, ce que vous dites. Par contre, je vais faire réagir nos invités, tout ce que vous avez dit. Oui. Merci, Philippe Van Engendonck, d'avoir été là et merci pour vos éclaircissements. Il y avait une réaction d'auditeur qui se demandait effectivement, est-ce qu'on ne vaccine pas trop? Est-ce que c'est un hexavalent? Donc, c'est 6 vaccins administrés en une seule fois, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux les espacer? Que sait-on que sait-on là-dessus? Et ce que disait M. Van Engendonck. Je vais donner la parole à Dr. Béatrice Swenen. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus, sur la nocivité présumée d'administrer plusieurs vaccins en un seul coup?
Alors, je voudrais commencer par dire qu'un enfant a 4 membres, il a 12 mois au cours de sa première année de vie. Et il y a un certain nombre de maladies contre lesquelles on veut le protéger. Et pourquoi est-ce qu'on choisit ces maladies? C'est en fonction de l'épidémiologie de ces maladies dans nos pays. Et donc, si on veut protéger cet enfant contre ces 6 maladies, si on n'utilisait que des vaccins monovalents, monodoses, il faut savoir que certains, comme la coqueluche, il faut faire plusieurs doses parce qu'on sait qu'avec une seule dose, on ne sera pas protégé. Il faudrait faire plus de 25 injections à un enfant au cours de ses premiers 6 mois de vie. Alors, c'est clairement le souci qu'on ne peut pas imposer cela à un enfant. Et donc, l'idée d'avoir combiné des vaccins, c'est une très vieille idée. Elle a déjà commencé avec le diphtérie tétanos coqueluche, pour lequel on a un recul de plus de 40 ans. Et c'est clair que tous ces vaccins, comme je l'ai dit en début d'émission, ont fait l'objet d'études. On n'a pas simplement pris 6 vaccins qu'on avait, qu'on les a mis dans une fiole et puis qu'on les a injectés. Non, chacun de vaccins, chaque fois qu'on a rajouté un composant dans un vaccin, toutes les études cliniques ont été faites. Et pour revenir alors au risque, mais peut-être que l'immunologiste pourra mieux en parler, mais pour dire qu'on a trop d'antigènes en même temps, je pense qu'il faut se rendre compte qu'un bébé qui naît, il n'a rencontré quasi pas d'antigènes. Et dans les premiers jours de sa vie, il va être bombardé d'antigènes parce qu'il va être dans un environnement qui est multi-antigénique. Et donc les 9 petits antigènes qu'on le donne avec le vaccin, je dirais que c'est vraiment dérisoire par rapport à l'ensemble des antigènes qu'il rencontre du fait simplement de naître. La vie reste quand même un risque.
Hein. Oui, Muriel Moser.
Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Donc, la réponse immunitaire est extrêmement spécifique. C'est-à-dire qu'on a un petit nombre de cellules qui reconnaissent le virus de la rougeole, par exemple, le virus de rayon, etc. Et je ne pense vraiment pas qu'on puisse dire qu'en en donnant 6 ou 8, ça change grand-chose. Ce n'est pas non plus une grosse inflammation, une réponse non contrôlée. Le système immunitaire reconnaît spécifiquement chaque microbe et après, il est régulé par un ensemble de mécanismes qui inhibent la réponse et qui laissent finalement simplement quelques cellules de mémoire qui font que, oui, nous allons nous souvenir que nous avons vu ce vaccin et donc nous sommes protégés contre une infection future, contre le même. Donc, le pourcentage de cellules qui répondent contre chaque vaccin est très faible et c'est fortement régulé. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à ce sujet immunologiquement.
Oui. Alors, on avait 2 questions qui nous sont arrivées par SMS 631, 50 signes de message ou via la page de l'émission lapremière.be. Théo, via email, il faut tenir compte du fait que les vaccins contiennent des substances reconnues comme toxiques et cancérigènes. C'est ce qu'expliquait à l'instant Maître Van Langendonck, notamment des sels d'aluminium ainsi que le formaldéhyde dans le vaccin contre la polio. Yves, pourquoi est-il difficile de trouver des vaccins avec d'autres adjuvants que l'aluminium dont la nocivité a été démontrée? Voilà, quelqu'un peut apporter un élément de réponse par rapport à ça, docteur Swenen ou madame Moser?
Mais je pense que l'ensemble des vaccins qu'on utilise, de fait, peuvent renfermer des traces. Ces éléments, tout élément qui se trouve dans le vaccin est nécessaire, soit à la stabilité du vaccin, soit au fait qu'il puisse induire la réponse. Et donc, il a été clairement dit que on a déjà éliminé, tout ce qui était mercure est éliminé des vaccins. Et l'aluminium, pour le moment, on est en train de les éliminer aussi. Mais il y a en plus, les doses qui sont dans les vaccins sont extrêmement faibles. Donc, je pense que, honnêtement, il faut quand même raison garder par rapport à l'utilité de chacun des composants qu'on met dans un vaccin pour pouvoir être sûr que la réponse est faite. Si on l'enlevait, peut-être qu'on n'aurait pas une meilleure réponse.
On va écouter le message d'un auditeur un message qui était laissé sur le répondeur au 02 737 37 07 par rapport au vaccin anti-polio. On l'écoute.
Bonjour, je suis le docteur Martens. Je suis le responsable du Centre des maladies neuromusculaires de Liège. J'ai entendu que votre émission allait parler des vaccins, et notamment du vaccin contre la polio, avec les pour et les contre. C'est une maladie absolument dévastatrice. Si tout le monde était vacciné, cette maladie serait éradiquée du monde, comme l'a été la variole il y a environ 25 ans. Alors, s'il y a des intégristes, c'est en partie à cause d'eux que certaines personnes ont encore la polio dans le monde et que je trouve ça absolument déplorable parce que c'est une maladie qui ne devrait plus exister sur la Terre depuis déjà une dizaine d'années si les campagnes de vaccination avaient été correctement effectuées. Merci.
Et voilà, c'est quelque part une réaction par rapport à la question qu'un auditeur se posait tout à l'heure sur le caractère obligatoire du vaccin contre la polio. Marie-Christine Mauroy, un commentaire par rapport à ce que disait ce monsieur, responsable d'un centre hospitalier à Liège.
Mais je pense effectivement que on est face à un vrai dilemme où on va mettre dans la balance le droit de l'individu et la protection de la collectivité. Et effectivement, c'est un dilemme. Je dirais que nous, en tant que qu'office de la naissance et de l'enfance, nous avons un devoir de protection de la collectivité. Voilà pourquoi nous maintenons cette obligation vaccinale dans nos milieux d'accueil. Je dis bien, nous avons donc deux actions. Une première dans nos consultations de nourrissons où simplement nous mettons en œuvre la vaccination, nous informons et les gens gardent le choix total de ne pas vacciner leur enfant. Et dans les lieux d'accueil, là, nous maintenons l'obligation. Je voudrais aussi réagir par rapport aux personnes qui ont dit que fait sous-entendre que la Belgique et la France étant des gros producteurs de vaccins, l'obligation, nous étions les seuls à maintenir l'obligation.
Il y a beaucoup de réactions qui vont dans ce genre. Hein. Oui. La puissance du lobby pharmaceutique dans la politique vaccinale menée en Belgique et en France.
Oui, je voudrais peut-être citer deux cas. Les États-Unis, où on peut se dire que là, la liberté individuelle est vraiment très importante, eh bien, dans pratiquement tous les États des États-Unis, les vaccinations de base pour lesquelles nous maintenons une obligation en milieu d'accueil, elles sont les mêmes. Donc, ces obligations sont les mêmes pour rentrer dans un milieu d'accueil, pour rentrer à l'école maternelle, pour rentrer à ce qu'on considère notre niveau primaire. Et pour revenir au débat concernant la protection de la collectivité, eh bien, je voudrais citer le cas de l'Angleterre, où en 2012, notamment lié au fait que la vaccination contre la coqueluche était relativement défaillante pour une partie de la population des adultes, ils se sont retrouvés l'an passé avec plus de 7000 cas. Et ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'ils ont eu 13 décès de bébés suite à la coqueluche en Angleterre, sachant que cette vaccination date de dizaines et de dizaines d'années et que nous avons maintenant les preuves de son efficacité, au point que, actuellement en Angleterre, on a décidé de vacciner toutes les femmes enceintes pour protéger les bébés, pour arrêter cette hécatombe de bébés.
Est-ce que l'ONE, dans les milieux d'accueil, vous êtes confronté à beaucoup de parents qui refusent de faire vacciner leur enfant? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur ou pas? Ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'un micro-phénomène?
Je vais peut-être passer la parole à Madame Swenen qui a fait une étude là-dessus, mais disons que de façon générale, c'est un micro-phénomène. Ce à quoi nous sommes plus confrontés, c'est à des parents qui ont envie de faire vacciner leur enfant, mais qui sont inquiets parce qu'ils entendent des choses qu'ils ne comprennent pas toujours.
Mmh. Oui, docteur Swenen.
Oui, donc dans une enquête que nous avons menée au mois de juin 2012, où nous avons interrogé plus de 1500 enfants sur la région bruxelloise et la région wallonne pour établir les couvertures vaccinales dans notre pays, nous interrogions aussi les parents sur les raisons éventuelles de refus de vaccination. Et nous n'avons pu mettre en évidence dans cette étude, qui est donc une étude qui est représentative de l'ensemble des parents d'enfants de 18 à 24 mois, nous avons vu que le taux de refus d'une vaccination, n'importe laquelle, était de moins de 2% de refus. Par contre, et pour ça rejoint évidemment ce que dit Marie-Christine Mauroy, quand nous les interrogeons sur est-ce qu'ils se sentent suffisamment informés ou est-ce qu'ils ont des craintes, là, un cinquième des parents disent que, ben oui, parfois ils se posent des questions sur la vaccination et qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc je pense que nous avons, en tant que médecins et scientifiques, la responsabilité d'informer correctement les parents de ce que nous faisons et de ce que nous leur proposons en vaccinant leur enfant. Mais je pense qu'il faut vraiment rester conscient que ce n'est pas parce qu'une maladie disparaît et que donc la mémoire de la gravité d'une maladie disparaît dans une population. À l'heure actuelle, c'est des gens de mon âge qui ont encore eu des enfants, des petits collègues qui ont fait une polio et qui donc ont des séquelles. Mais des jeunes parents qui ont maintenant 25 ans, eh bien, ils n'ont plus vu un seul enfant qui a fait la polio. Et donc, ils ne se rendent pas compte du risque de la gravité que peut représenter les maladies. Et donc, Je pense que c'est important de mener une information perpétuelle et constante pour bien informer les parents. Demandez à une mère africaine si c'est important de vacciner son enfant contre la rougeole. Toutes vous diront que c'est important parce qu'elles ont vu des bébés mourir de la rougeole dans leur pays d'origine. Il n'y a aucune africaine qui va refuser la vaccination rougeole. Mais chez nous, on reste avec l'idée que la rougeole, c'est finalement une maladie peu importante, pas très grave. Ça donne l'occasion de rester à la maison pendant quelques jours, d'être se faire un peu coucouner. Mais il faut savoir que dans les dernières épidémies, plus de 20%, et donc on a eu une épidémie en 2011 de plus de 500 cas de rougeole en Belgique, il y a eu 12% d'hospitalisation parmi ces cas. Donc ce n'est pas une maladie si bénigne qu'on veut bien le faire croire. Et que donc les gens qui sont contre la vaccination vont le faire croire.
Oui. Muriel Moser.
Oui, je pense en effet qu'il faut regarder un peu l'histoire. La première vaccination a eu lieu en 1796 par Jenner contre la variole. C'était un peu un hasard. Il avait vu que les fermières qui traillaient les vaches qui avaient la variole, un virus un peu différent du virus qui infecte l'homme, étaient protégées. C'est comme ça que ça a commencé. 1796. Moins de 20 ans après la variole éradiquée, il y a un nombre incroyable de maladies qui sont sous contrôle. Mais vous pouvez encore voir dans les livres d'histoire, par exemple, les patients qui sont atteints de polio, qui sont dans des respirateurs pour leur vie entière. On oublie ça, je pense que vous avez parfaitement raison. Et donc, rien que de voir l'histoire de toutes ces maladies qui sont beaucoup plus graves qu'on ne pense, le rotavirus, un des derniers vaccins, c'est quand même aussi un vaccin important. Les enfants sont très malades, vous le savez mieux que moi. Et donc, je pense qu'en regardant l'historique et ce que vous venez de dire, bon, je pense qu'on est persuadé de l'efficacité des vaccins qui a été quand même extraordinairement bénéfique avec l'accès à l'eau potable, avec la découverte des antibiotiques. Mais ces trois points-là sont majeurs pour la santé humaine.
On va accueillir par téléphone au 02 737 37 07 une auditrice qui souhaitait réagir et qui est impliquée dans la politique menée en matière de liberté vaccinale. C'est Sophie Meulemans. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous faites partie du collectif Initiative Citoyenne et vous souhaitez intervenir par rapport à ce qui a été dit dans l'émission.
Oui, tout à fait. Donc en fait, on a assisté à un festival de contre-vérités scientifiques et nous avons évidemment les éléments pour le dire. Bon, déjà, quand on dit que les effets secondaires des vaccins sont extrêmement rares, je voudrais quand même rappeler que dans des revues médicales, comme la revue du praticien, il est indiqué que seuls 1 à 10% des effets secondaires graves sont recensés et comptabilisés. Ça, c'est déjà un premier point. Alors, un autre point important, c'est que quand Mme Suenen dit que les études sur les vaccins sont effectuées, c'est évidemment un simplisme, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune étude sur le long terme pour les effets secondaires des vaccins. Donc, par exemple, on n'évalue pas le risque de cancer. On n'évalue pas ça pour les vaccins, alors que c'est imposé pour d'autres médicaments ou même pour des cosmétiques qui, eux, ne sont pas obligatoires. On ne compare jamais les gens vaccinés avec des gens non vaccinés. Donc, on biaise la comparaison. Dans le faux groupe placebo, les gens reçoivent un autre vaccin ou une substance intrinsèquement toxique. Je voudrais aussi souligner quelque chose d'important. L'ONU dit que pour l'enfant Rickettsia, enfin, on informe les parents uniquement que de la fièvre et de la rougeur au point d'injection, alors qu'il faut quand même savoir qu'un document confidentiel que nous sommes procurés de GSK liste 825 complications, dont des effets très graves comme la mort subite, c'est le fabricant qui le liste. Hein. Mort subite, autisme, syndrome de l'enfant maltraité et secoué. Tout ça, ce sont des effets qui sont répertoriés. Donc je pense qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi au public.
Vous avez un peu fort, hein, Sophie Meulemans.
Je vais juste finir ma phrase. Aux États-Unis, les autorités ont déjà dépensé 2,5 milliards de dollars en indemnisation des victimes de vaccins depuis 1986, alors que 2/3 des plaintes sont rejetées d'emblée. Donc je crois qu'il faut arrêter de raconter n'importe quoi.
On n'a pas raconté n'importe quoi. Je pense qu'ici,
ont raconté des choses qui ne sont pas fiables par rapport à l'ensemble des données scientifiques.
Il y a des faits scientifiques qui ont été rapportés. Après, vous venez contredire ces faits par d'autres exemples. On va faire réagir les invités. Merci d'avoir apporté votre point de vue. Peut-être tout d'abord Marie-Christine Mauroy par rapport à ce qui était épinglé par Sophie Meulemans.
Écoutez, je pense que voilà, c'est une position, mais simplement, effectivement, les firmes, et Madame Suenen l'a bien dit, sont obligées de répertorier tout effet secondaire qui, dans le temps, est apparu dans les jours, les semaines après un vaccin. Et donc tout cela se retrouve dans la notice du vaccin. Ce sont, comme on l'a bien dit, des cas qui peuvent arriver une fois sur 1 million. Madame Le Mans par exemple, du syndrome de l'enfant secoué. Mais je ne vois vraiment pas le rapport avec la vaccination, sauf peut-être que l'enfant ayant été un peu plus grincheux a plus vite été secoué. Mais donc voilà, il faut être attentif à ça. Alors, peut-être une chose à laquelle...
5 secondes.
Oui, c'est que il est fondamental, comme on l'a dit, de continuer à donner une information exacte. Et comme les vaccins sont distribués gratuitement et qu'ils sont dans les consultations, les parents, c'est vrai, n'ont pas le vaccin en main et n'ont pas la notice.
On va devoir arrêter l'émission parce qu'on arrive déjà au terme. Évidemment, ça suscite beaucoup de réactions et on n'a malheureusement plus le temps. Mais merci d'avoir été tous avec là ce midi. Vous pouvez la rattraper, cette émission, si vous l'avez pris de court, en podcast sur lapremière.be dans quelques instants, 13h, le journal.
Retrouvez le forum de midi tous les jours de la semaine, de midi à 13h sur La Première.